Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bousouma.
Démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. L'opération se poursuit à l'ouest de la capitale, le long de la rivière Mapenza, partie du pont sur l'avenue des Écuries. Tout est rasé jusqu'à l'avenue Ngouma, entre autres le centre hospitalier à Kram, ce alors que des malades s'y trouvaient encore. Une dizaine de communicants issus des partis politiques de la majorité et de l'opposition s'engagent à promouvoir des discours unificateurs et apaisés dans leurs interventions publiques. Engagement pris hier à Kinshasa à l'issue d'un atelier organisé par la dynamique des politologues de la RDC. Et pour en parler, nous recevons Christian Moleka, coordonnateur de cette structure. Avant de développer ces titres, notez d'abord le procès Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle renvoie au mardi 20 mai le prononcé du verdict dans l'affaire qui oppose le ministère public aux prévenus Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Grobler. Ce verdict était attendu hier après l'audience du 23 avril, au cours de laquelle le procureur général près la Cour a requis 20 ans des travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité contre l'accusé principal et député national Augustin Matata Ponyo. Tous les juges de la composition étaient en plénière hier, le temps de passer les derniers réglages de leur délibéré pour le prononcé. Selon l'ordonnance de prorogation du délai du prononcé signé et publié dans la soirée par le président de la Cour constitutionnelle et le greffe, ce renvoi est motivé par le nombre important des pièces et questions de droit à examiner ayant une incidence sur le temps du délibéré encore en cours. Madame, Messieurs, bonjour. Les travaux de démolition des constructions anarchiques se poursuivent dans la partie ouest de la capitale, le long de la rivière Mapenza, partie du pont sur l'avenue des Écuries. Les équipes de l'hôtel de ville ont atteint depuis mardi l'avenue Ngouma. Tout ce qui était érigé le long de ce cours d'eau sur cette aile est démoli. C'est le cas du centre hospitalier à Kram. Il ne reste ici que les bâtiments de la réception et celui de l'administration. La pédiatrie, la maternité et autres n'existent plus. Cela alors que des malades s'y trouvaient encore. Son personnel ne digère pas cette façon de faire. Plotin Yambenga nous décrit la situation.
Les centres hospitaliers à Kram de Ngaliema présentent un nouveau visage. Lit des malades, hydrophores, microscopes et autres matériels médicaux jonchent la cour. Un spectacle désolant auquel assistent impuissamment les infirmiers. D'autres constructions sont en train d'être réduites en poussière à quelques mètres de là ce mercredi soir. Cette sage-femme explique ce qu'elle a vécu en plein service.
Lundi, nous étions surpris. On démolissait déjà derrière, du côté de la pédiatrie. Nous avions des enfants sous perfusion. Nous avons commencé à courir pour sortir des enfants. Nous aurions dû nous accorder même un mois pour déménager.
Dans un mois. Du côté de l'hôtel des villes, les discours restent les mêmes.
Il y a tant de personnes qui ont rétréci la rivière, le fleuve. Et après la pluie, ça va déboucher. Dans les maisons, tout le monde était averti. Il y a un communiqué au mois de novembre. Et avant la démolition, nous avons eu à faire une mise en demeure il y a 2 semaines.
Au sein de la population, les avis restent partagés quant à l'exécution de ces travaux.
Nous pouvons regretter de voir des belles maisons détruites, mais après analyse, on se rend compte qu'il s'agit bien des espaces publics.
Ce n'est pas mauvais de casser parce que nous devons nous renseigner nous aussi sur les sites où nous voulons acheter des terrains, mais il faut quand même informer les gens bien avant de démolir.
Toutes les habitations construites le long de cette rivière seront démolies, a fait savoir les responsables de la brigade assainissement de Kinshasa.
Pendant ce temps, au sud Kivu, le couvent des sœurs religieuses de Kabaré, dans le territoire du même nom, a été attaqué par un groupe de gangsters armés dans la nuit de mardi à hier mercredi. Les sœurs du couvent de Chania ont subi des tortures physiques et morales. L'une d'elles précise que les bandits les ont ligotées avant de piller systématiquement les logis des sœurs. L'opération a duré 1 heure. Les alertes lancées par les sirènes du presbytère, couplées à celles du couvent et des clameurs populaires provenant des villages environnants, n'ont eu aucun effet sur les brigands. Une semaine avant, c'est le couvent des religieuses de Nyangezi dans la paroisse de Chibimbi qui a été attaqué par un groupe des bandits armés non autrement identifiés. Du côté du Sud-Ubangi, nous apprenons que 2 bacs, dont du chef de l'État, ont disparu dans le Sud-Ubangi. C'est le vice-premier ministre, ministre des Transports, qui l'affirme dans une lettre adressée à son collègue de l'Intérieur. Dans sa lettre, Jean-Pierre Bemba Gombo indique que ces bacs ont été purement et simplement vendus à un ressortissant camerounais. Détail avec Askenzi Biatayoro.
La lettre de Jean-Pierre Bemba renseigne que ces bacs ont été vendus en complicité avec l'administrateur du territoire de Kungu, le chef des secteurs de Dongo et un magistrat. La même source ajoute que ces bacs ont été acheminés en République du Congo, précisément à Ifonto, au Congo-Brazzaville. Selon Jean-Pierre Bemba, cet acte préjudice les populations bénéficiaires du don de chef de l'État de la province du Sud-Ubangi. Contacté, le gouverneur de cette province, Michel Mobonga Lobo, dit avoir été instruit par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour engager des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de la vente illicite de ces deux bacs. Selon l'autorité provinciale basée à Guémena, l'un des présumés complices de cette vente, un magistrat, se trouverait à l'est du pays, dans un territoire sous occupation de rebelles du M23. Le gouverneur du Sud-Ubangi confirme que l'administrateur du territoire de Kungu et le chef des secteurs de Dongo sont suspendus de leurs fonctions. Ils sont attendus à Guémena pour des enquêtes judiciaires. Dans ce dossier, le nom d'un colonel de FRDC est cité comme l'une des personnes qui aurait négocié la vente de ce bac.
La MONUSCO est en deuil. La mission onusienne annonce avec regret le décès tragique de deux membres de son personnel dans un accident de circulation. Accident survenu à environ 13 kilomètres au sud de Kichanga, dans le Nord Kivu, alors qu'un convoi logistique de la MONUSCO se dirigeait de Munigi vers la base opérationnelle permanente de Kichanga. Un véhicule de la mission a quitté la route et s'est renversé après avoir glissé dans un ravin. Malheureusement, un casque bleu du bataillon marocain de déploiement rapide et un assistant linguistique congolais ont perdu la vie dans l'accident. Quatre autres casques bleus marocains ont été blessés et évacués vers l'hôpital des Nations Unies à Goma pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Viviane Van de Perre, chef ad intérim de la MONUSCO, présente ses sincères condoléances à la RDC et au Royaume du Maroc. Autre nouvelle, les missions de paix des Nations Unies souffrent d'une grave crise de liquidité actuellement. Par conséquent, le secrétaire général de l'ONU rappelle aux 193 États membres leur obligation légale de payer leur part du financement de ces opérations. Antonio Guterres a lancé cet appel hier à l'ouverture d'une conférence ministérielle de deux jours organisée par l'Allemagne sur l'avenir du maintien de la paix. Le patron de l'ONU rappelle que le maintien onusien de la paix, qui représente une infime fraction des dépenses militaires mondiales, reste l'un des outils les plus efficaces et les plus rentables pour construire la paix et la sécurité internationale. Mais il n'est efficace que si les États membres y sont réellement engagés. Actuellement, le département des opérations de paix de l'ONU mène 11 missions, notamment en RDC, en Centrafrique, au Soudan du Sud, au Liban, à Chypre et au Kosovo. Le budget de 9 de ces missions pour l'exercice s'est terminant le 30 juin s'élève à 5,6 milliards de dollars, soit une baisse de 8,2% par rapport à l'année précédente. Direction Beni, au Nord Kivu, signalant le lancement mardi du projet de forage et d'adduction d'eau potable à Kilia, localité située à 27 kilomètres de Beniville. Ce projet, initié par la brigade d'intervention de la MONUSCO, vise à réduire les violences sexuelles dont les femmes et jeunes filles sont souvent victimes en allant chercher de l'eau loin de leurs habitations, mais aussi les cas de maladies d'origine hydrique dans cette région où l'eau est une denrée rare. Marc Marofimbo nous précise.
Ce projet de la MONUSCO est une réponse au cri de détresse de la population de cette entité qui peine à s'approvisionner en eau potable. Ici, la population composée majoritairement de déplacés et de retournés parcourt de longues distances pour avoir de l'eau de ruissellement le plus souvent, ce qui l'expose à des maladies d'origine hydrique. Pour le chef du groupement des Malambo, cet appui de la MONUSCO s'inscrit dans le cadre de son mandat pour la protection des civils et le soutien au développement local dans le secteur de Rwenzori. Selon lui, le projet contribuera à réduire les temps et les longues distances parcourues par la population pour aller chercher de l'eau, ce qui expose les femmes et jeunes filles à des violences sexuelles commises par les groupes armés. Le projet va aussi indéniablement aider à limiter les maladies hydriques pouvant entraîner des pertes en vie humaine et impacter les activités socio-économiques, notamment celles des femmes. Il est prévu la construction de deux forages à pression équipés chacun d'une pompe photovoltaïque avec son contrôleur au niveau de la source de Kilia, ainsi que l'installation d'un support tank. Le projet inclut également la construction et le raccordement de 5 bornes fontaines publiques dotées chacune de 4 robinets. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la coupure du réseau de téléphonie mobile dans la zone de Pinga affecte plusieurs secteurs socio-économiques. Pinga est à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, selon le modérateur du cadre interpaysan pour la transformation des conflits. Depuis 15 jours, le signal des réseaux Vodacom et Airtel est coupé, ce qui perturbe la connexion Internet et les transactions financières par Mobile Money, affectant même le service de prise en charge médicale dans la zone. Julien Bounda estime que le gouvernement devrait intervenir urgemment dans cette zone en insécurité permanente. On l'écoute.
Alors, dans ces contextes particuliers, les infirmiers de la zone santé de Pinga traversent difficultés des ruptures de médicaments dans les différents centres de santé, au niveau de l'hôpital général de référence, débordé des cas suite à la prise en charge au niveau de la maternité, des enfants mal nourris, des cas de paludisme qui augmentent suite au séjour prolongé dans la forêt pendant plus ou moins 7 mois. Mais aussi les cas des infections respiratoires aiguës qui augmentent en termes des statistiques sanitaires dans la zone. À cela s'ajoute la coupure des réseaux téléphoniques, les deux antennes qui étaient opérationnelles, notamment Airtel et Vodacom, toutes les deux non opérationnelles. Ça accentue encore l'enclavement de la localité de Pinga et ses environs. C'est ainsi que nous sommes toujours en train de venir auprès des autorités et du gouvernement national pour faire tous les mieux afin de rétablir les réseaux téléphoniques.
Des sources locales signalent également la difficulté qu'éprouvent les deux sociétés de téléphonie mobile d'acheminer du carburant vers Pinga pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui alimentent leurs antennes. Dans l'actualité aussi, une dizaine des communicants issus des partis politiques de la majorité et de l'opposition s'engagent à promouvoir des discours unificateurs et apaisés dans leurs interventions publiques. Engagement pris hier, mercredi, à l'issue d'un atelier de renforcement des capacités sur la communication politique constructive, axé sur la cohésion nationale, atelier organisé à Kinshasa par la dynamique des politologues de la RDC Dipol en partenariat avec la MONUSCO. Le compte-rendu de Ronéline Thibault.
Désormais, ces acteurs, qu'ils appartiennent au parti au pouvoir ou à l'opposition, s'accordent sur la nécessité de construire une communication politique fondée sur le valeur de parti plutôt que sur les personnes. C'est ce qu'a souligné Dena Lukunku, porte-parole d'Envol, un parti de l'opposition.
Nous devons communiquer des valeurs idéologiques de nos partis respectifs pour la cohésion nationale. Cela ne demande pas à ce que nous soyons de la majorité de l'opposition, mais c'est un devoir de tous de pouvoir rendre propre le secteur de la communication.
Face au risque croissant de désinformation, Nicole Etiota, communicant du MLC, estime qu'il est temps de favoriser l'unité et la cohésion nationale à travers les discours politiques.
Ça pourra aider chaque organisation politique à emboîter les pas et à faire l'effort pour l'unicité des peuples congolais et la cohésion effective nationale.
Christian Moleka, des Dipol, salue ces engagements que le juge d'une importance capitale pour la société congolaise.
Avec les différents parties prenantes de l'opposition du pouvoir, je crois que ça a été une expérience très riche, à la fois des compréhensions mutuelles, mais également des cohésions.
Cet atelier s'inscrit dans une série d'activités prévues par la Dipol à travers la RDC.
L'actualité, c'est aussi le tribunal militaire garnison de l'Ituri qui a débuté mardi l'instruction de 120 dossiers dont les prévenus ne sont pas jugés depuis 3 ans. Les audiences se déroulent en chambre foraine à la prison centrale de Bounia avec l'appui financier et logistique de la MONUSCO. L'objectif est de désengorger cette prison qui héberge à ce jour plus de 2000 personnes au lieu de 500 sa capacité d'accueil initiale. Jean-Claude Loki nous en dit plus.
Le premier lot de dossiers examinés par le tribunal militaire garnison de l'Ituri concerne 60 infractions commises entre 2019 et 2022 et qui n'ont jamais fait l'objet d'instruction par les juges durant les 3 dernières années. Il s'agit de 27 cas de viol et 33 cas pour participation à des mouvements insurrectionnels. À l'issue de ces procès qui se tiennent dans l'enceinte même de la prison centrale de Bounia, au moins 80 détenus pourront finalement être fixés sur leur sort, déclare-t-on à la section de l'appui de la justice de la MONUSCO. La MONUSCO qui précise qu'il s'agit d'un programme d'appui aux autorités de la justice dont le but ultime est de désengorger cette prison qui accueille 4 fois plus de détenus que sa capacité initiale. Le tribunal militaire Ganaison a mis en place 2 chambres pour juger ces personnes. De son côté, le barreau des avocats a mis à la disposition des prévenus des avocats pour assister entre autres les prévenus indulgents. En février 2025, la MONUSCO avait déjà financé un projet similaire à Mahagi où 76 dossiers avaient été instruits par le même tribunal. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Mauritanie. La peine de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, alourdi à 15 ans de prison en appel, jugé en appel depuis novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir en vue d'amasser une immense fortune. L'ancien président mauritanien est condamné à une peine plus lourde qu'en première instance. Il écope de 15 ans de prison ferme au lieu de 5 ans initialement.
L'invité.
Les communicateurs des partis politiques ont un rôle essentiel à jouer dans l'apaisement du climat social et la consolidation de l'unité nationale. C'est la conviction de Christian Moleka, initiateur d'un atelier de renforcement des capacités sur la communication politique constructive axée sur la cohésion nationale. Atelier tenu hier mercredi à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Il est avec Ronéline Tibonera.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Une session de renforcement des capacités sur la communication politique constructive et cohésion nationale, quid de son opportunité en cette période post-électorale?
C'est un moment important parce que nous sommes dans une de ces périodes de grande fragilité où les tensions sécuritaires, les tensions de la guerre aujourd'hui ont de la répercussion dans l'espace de communication. Et donc comment les communicateurs qui sont des canaux très importants d'information de l'opinion participent par leur agir à améliorer tant la compréhension politique mais surtout à créer un climat d'apaisement. Le but de la formation était celle-là, c'est de renforcer les communicateurs pour qu'ils soient des vecteurs d'un discours plus constructif, qui renforce le vivre ensemble et la cohabitation et l'apaisement, plutôt que de construire un discours essentiellement agonistique, stérile, et qui parfois renforce la polarisation et les clivages.
Quel impact durable cette formation peut-elle avoir sur les pratiques politiques en République démocratique du Congo, notamment en termes de cohésion nationale?
C'est un long processus que nous commençons aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas d'espérer d'un seul trait changer toutes les choses. Mais nous avons commencé un travail qui doit se pérenniser, à savoir renforcer suffisamment en capacité les communicateurs, les responsabiliser déjà sur la prise de parole publique qu'ils font, sur l'incidence de leurs propos dans la construction ou la déconstruction sociale, et après, de manière permanente, ramener et les communicateurs et les partis politiques à jouer ce rôle des vecteurs positifs dans un contexte politique marqué par beaucoup de fragilité.
En République démocratique du Congo, la politique est souvent perçue comme un enjeu des rivalités. Comment cette formation peut-elle aider à en faire un levier d'unité?
Bon, nous avons déjà rappelé aux participants que effectivement la politique est conflictualité, mais conflictualité des accords institutionnalisés qui permet en même temps de construire un ensemble plus grand qu'un système politique. Autant il y a des partis, autant ces partis résident sur le partage d'un même État, le partage d'un même concept républicain et le partage d'un même espace politique. Et donc il y a certes un positionnement comme acteur à maintenir, mais en même temps l'équilibre d'un système à préserver. Et donc le but de la formation, c'est de montrer aux politiques qu'il y a ce double levier à prendre en compte, à savoir la logique partisane qui doit exister, mais dans un cadre républicain. Et donc on ne peut pas utiliser le partisan pour fragiliser la République. On doit à la fois construire les partisans et garantir la stabilité de la République.
Des discours politiques, bien sûr, ou la communication politique, mais entre États, les médias aussi sont des acteurs clés dans cette dynamique. En assistant à cette session, ils ont été mis de côté. Est-ce que ce n'est pas un défi dans votre organisation?
C'est un défi important parce que les communicateurs politiques ne sont que l'un des versants des acteurs qui émettent ce secteur-là. On l'a relevé, il y a les médias. Il y a des électrons libres qu'on appelle des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a des acteurs anonymes sur le numérique. Donc nous avons commencé un processus par des communicateurs plus ou moins officiels des partis. Cette démarche va s'étendre, peut-être pas, pourquoi pas demain, à ceux qu'on appelle journalistes politiques, qui sont ceux qui reçoivent les communicateurs, pour avoir une dynamique plus large, qui prenne en compte les différents acteurs. Mais c'était un début aujourd'hui de commencer par les communicateurs officiels, quitte à ce que dans la dynamique, on l'étende également à d'autres acteurs, dont les chefs de parti eux-mêmes également.
Est-ce qu'il y a de projections dans l'avenir pour outiller ces communicateurs à ne pas tomber dans la manipulation, voire même dans des discours de haine?
Effectivement, l'une des questions qui était soulevée, c'était de la désinformation, les fake news. Et on a senti également ce besoin de beaucoup d'acteurs des partis politiques à mieux comprendre les mécanismes du fact-checking. Et donc, nous sommes en train de projeter. Pourquoi pas demain organiser au sein des partis des formations sur le fact-checking et aider certains partis à mettre en place des mécanismes de fact-checking pour pouvoir en interne travailler à construire une information saine. Mais également, nous avons essayé de les présenter, les différents acteurs de fact-checking existants déjà. On peut penser aux acteurs publics, aux privés, qui aujourd'hui mettent sur la place publique des outils de fact-checking. C'est à eux, avec les informations qu'on leur a données, de savoir les utiliser pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation.
Là où on a plus besoin de la cohésion, c'est dans les villages, dans les zones à risque. Vous organisez ce genre d'activités à Kinshasa. N'est-ce pas un grand défi où vous abandonnez carrément les zones, par exemple, qui sont occupées?
La prétention du projet, c'est également d'aller en province. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires sur la possibilité d'avoir un tel projet à Kisangani ou en Ituri. Mais c'est également un défi logistique. Nous commençons à Kinshasa, utilisons également les médias tels que vous pour amplifier l'écho de ce qui a été fait à Kinshasa, même si les ressources sont très modestes. Mais je crois qu'au fil de temps, nous allons également travailler à multiplier ce genre d'activités en province pour toucher un peu plus de gens. L'avantage de Kinshasa, c'est que nous réunissons pratiquement les partis de tous les horizons, les leaders de tous les horizons, et donc à travers ce microcosme-là, on peut indirectement toucher d'autres acteurs, même si je reconnais que le besoin d'aller en province est un besoin réel et qu'il faudra trouver certainement des ressources pour y répondre.
Spécialement les cas, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC répondait aux questions de Ronéline Tibonera. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.